Le soir. Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec en espérant que vous ayez passé une belle journée. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud. Le soleil devrait être moins fort pour ce qui est des prochaines heures. Puis en espérant que vous soyez capable de bien dormir ce soir. Nous, on va passer une excellente 60 minutes puisque Benoît Thérien de Truck Stop Québec est avec nous. Benoît Thérien, salut!
Comment ça va, Yannick Marceau?
Ça va très bien, mais on vient qu'à se sentir mal dans ce type de journée-là. Quand on parle dans les médias, c'est un privilège que j'ai, moi, de faire de la radio depuis 2006. Puis à chaque fois que ça arrive, je sais pertinemment que je parle avec des gens qui souffrent épouvantables de la chaleur. Puis moi, ben, j'essaie de ressentir la même affaire qu'eux autres pour me mettre dans le même beat qu'eux autres, sauf que je t'ai l'air climatisé. Puis cet après-midi, je mangeais des drumsticks. Fait que tu comprends qu'on n'était pas...
Ton Facebook à toi, manger des drumsticks.
Ouais, sur mon Facebook, à moi, j'ai fait une blague là, comme quoi on m'obligeait à travailler à l'air climatisé puis à manger des drumsticks. Puis c'est vrai que je mangeais un drumstick cet après-midi après l'émission. Mais j'ai une pensée pour... même il y a des camionneurs et des camionneuses qui nous écoutent, là, qui sont sur des chantiers de construction qui n'ont pas l'air climatisé dans le truck. J'ai une pensée pour vous autres parce que... Là, on va se le dire, la poche est dans le thé. Hein? Ça doit pas être évident de travailler pendant plusieurs heures à cette température-là. On va passer au travers, mais comme je te dis... On se sent toujours un peu mal étant dans les médias d'essayer de comprendre les gens qui sont à l'extérieur alors que nous autres, on est à l'air climatisé puis on est tibou-dur.
Imagine, Yannick, ceux qui font des toitures, là, rentrer à l'heure où on est, c'est pas mal terminé, mais est-ce qu'on pourrait peut-être commencer des quarts de travail à 18 heures de même puis les terminer peut-être... En noirceur, c'est peut-être pas le fun de faire de la toiture, mais c'est peut-être le meilleur moment où le soleil te... plombe pas sa tête et tout ça.
Ouais.
Puis, tu sais, tu parlais d'air climatisé dans certains véhicules lourds, là. Il y a des camions qui, malheureusement, ben, par faute de pièces, par faute de temps, ou le garage n'a pas eu le temps de réparer ça, ben, il y a des gars et des filles qui, aujourd'hui, ont passé la journée à l'air forcé, de même si tu pars la fan dans le camion, ben, on dirait qu'on pousse juste de l'air chaud. Puis quand tu travailles, là, de plus en plus d'agriculteurs là, vont faire les foins ou en tout cas terminent la saison des foins, la première coupe. Fait que c'est tous des gens qui nécessairement vont souffrir un petit peu du temps chaud. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le soir, en tout cas, ça prend puis de plus en plus thermopompe à climatiser dans vos maisons pour dormir, avoir une nuit reposante. Je pense que c'est... la clé du succès.
Ouais. Pour les camionneurs, camionneuses, Ben, apprends-nous ça. Là. Quand ils dorment le soir dans des truck stops, est-ce qu'ils peuvent faire virer leur air climatisé sans aucun problème?
Bon, il y a deux écoles de pensée là-dessus, Yann. Il y a les écoles de pensée où, dans certains États américains, on nous bloque l'accès après, disons, 15 minutes de idle ou 5 minutes ou des temps différents. Ce qui fait en sorte qu'après le 5 minutes ou le 15 minutes, ton camion devrait nécessairement s'arrêter. Vous êtes-vous couché dans votre auto un soir? Vous n'aurez peut-être pas le confort d'un lit de camion, là, mais couchez-vous le soir, les fenêtres ouvertes, là, je vous dis que vous ne passerez pas une belle nuit. Là. Il va faire très chaud. Ça, c'est l'école de pensée de certains États américains.
Ouais, c'est surtout l'humidité. T'sais, la chaleur telle que telle, on l'a tous vécu là, dans le sud, mettons au Mexique ou, je sais pas, moi, ceux qui vont à Cuba. Mais n'en demeure pas moins que c'est pas la même humidité que nous, on peut avoir en Amérique. Là, que ce soit aux États-Unis, dans le nord des États-Unis ou encore nous autres au sud du Canada. L'humidité, des fois, est tellement présente. Comme aujourd'hui, là, un 40-44 degrés avec le facteur humidex. Je veux dire, tu bouges un peu, tu transpires, puis si tes bras sont collés sur, je sais pas moi, sur ton corps, tu rêves juste d'y décoller pour avoir un peu d'air, tu sais.
Oui, effectivement. Puis imagine que le camion a travaillé toute la journée, on se stationnerait à 18 heures, puis que vu qu'on se stationne à 18 heures, la transmission est chaude, le moteur est chaud, bien, ça crée quand même une forme de chaleur autour de toi. C'est pas le fun, là, mais il faut absolument, dans des conditions comme ça, d'assouplir la réglementation de ce qu'on appelle du idle. Au Canada, je n'ai pas vu vraiment de secteur. Il y a peut-être proche des installations immobilières où on va peut-être demander une réduction du moteur au ralenti, mais sans moteur au ralenti, l'air climatisé du camion, dans certains cas, ne fonctionnera pas. Il y en a qui ont des génératrices, le petit moteur d'appoint qui est à côté, mais qui fait un bruit quand même aussi sourd qu'un moteur qui vire au idle. Bon, ça marche dans certains cas. Puis on a les nouvelles technologies qui fonctionnent à batterie et qui climatisent le camion pendant une couple d'heures. Mais après ça, on n'a pas le choix de recharger ces batteries-là, soit à l'aide de la génératrice ou soit à l'aide du moteur au ralenti. Fait que choisissez vos batailles rendues là. Mais je suis de ceux et celles qui ne laisseront pas virer un camion. Quand il fait 14, 15, 16 degrés, j'ai pas besoin de faire virer un camion pour avoir de l'air climatisé. Il fait assez frais dehors pour ouvrir les châssis. Mais dans un cas extrême, comme on va le vivre dans les prochains jours, ben les autorités devraient être indulgentes dans certains secteurs des États-Unis pour ne pas empêcher un camion de virer au ralenti. Écoute, tu peux te réveiller avec un mal de tête incroyable d'avoir chaud comme ça. Puis, tu sais, on va aller prendre une douche dans un truck stop dans les prochaines heures, quelque chose. Puis juste le fait, comme tu disais, de marcher entre la sortie du truck stop, tu sors, tu es à peut-être 12 dans le truck stop parce qu'il climatise ça à côté. Bien là, tu arrives au camion, tu as marché, il fait chaud, tu embarques dans le camion, ça prend 10 minutes à climatiser. Bien là, tu as chaud, tu dis maudit, j'aurais dû prendre ma douche ou laisser virer le camion durant que je prenais ma douche. Bien, c'est ça. C'est ces temps-là. Puis l'hiver, aussi froid qu'il puisse faire, des fois à moins 20, moins 25, bien, il faut quand même laisser virer le camion. Puis de laisser ça au fast idle, comme on peut appeler, là, à 1000 tours, 800 ou 1000 tours, puis laisser virer le camion pour se réchauffer un peu à l'intérieur. Même si on a des Wabasto, le camion, un diesel, ben quand c'est des froids extrêmes, on est mieux de le laisser virer que le lendemain matin, être obligé de travailler avec un genre de remorqueur pour booster ça. C'est pas bien ben le fun, là, tu sais. Fait qu'il y a des périodes de l'année où ça coûte plus cher rouler un truck, puis c'est tout.
Oui, mais tu sais, on se le cachera pas. Toi, t'es un spécialiste du camionnage. Moi, je suis un apprenti spécialiste du camionnage parce que j'ai le plaisir de vous jaser régulièrement dans Mars au soir, mais aussi sur les ondes de Truck Stop Québec. Tu sais, j'en apprends à tous les jours, mais ce qui est primordial pour un camionneur ou pour une camionneuse, ben, c'est qu'ils puissent travailler en étant là à 100% puis en étant réveillé. Si la personne n'a pas été capable de dormir de la nuit en raison du fait qu'il fait soit trop froid ou soit trop chaud, cette personne-là devient un danger public sur la route, là.
Un zombie, tout simplement, ou une zombie. Puis passe la moitié de ta nuit à faire la pitoune sur un bord, pitoune sur l'autre, puis d'avoir chaud, puis de même pas être abrié, puis t'es encore trop chaud. C'est pas le fun, là, tu sais. Puis les entreprises sont très conciliantes là-dedans. Ils veulent pas que les camionneurs, tu sais, aient des nuits saccadées parce qu'il a fait trop chaud, fait trop froid. Ben, on a des systèmes d'appoint où on a de la climatisation dans le véhicule. Puis tu sais qu'au fast idle, c'est à peu près un gallon à l'heure de consommation de diesel. Donc, un gallon, c'est 4 litres à l'heure, ce qui fait que tu vas passer une bonne nuit, ton chauffeur va passer une bonne nuit. C'est peu investi versus peut-être, vous allez me dire, une chambre d'hôtel où il n'y aurait même pas de stationnement de camion, premièrement, puis que ça se peut que ça soit miteux, puis ça se peut que ton camionneur passe une mauvaise nuit là aussi. Fait que t'es mieux de le laisser dans le camion. Il est habitué à son lit, il est habitué à ses babelles, il est habitué à sa TV, puis tout ça. Fait qu'il passe une belle nuit, puis tout le monde est heureux après ça, là.
Exact. Écoute, on va souhaiter à nos camionneurs et camionneuses d'avoir une belle nuit ce soir, mais pour certains aujourd'hui, je pense à ceux qui ont travaillé dans le merveilleux monde de la construction, ça devait pas vraiment être évident, là. Je veux dire, tu sais, quand tu fais des toitures de maison, tu fais de l'asphalte.
Oui.
Ou même, tu sais, ceux qui travaillent dans les cuisines, dans les restaurants, je veux dire, tu fais rien puis tu transpires quand il y a de l'air climatisé ou quand c'est l'hiver, tu sais, dans
les restaurants. Ils disent que ça rajoute un petit peu de salé dans les hot dogs quand
t'es... Ah, ça m'écœure.
Non, mais c'est vrai. Tu sais, il y a des endroits où il fait vraiment chaud dans les cuisines, puis là, ben tu vois que dans le front, ça sue. Mais qu'est-ce qui arrive? Il passe le bras, puis il continue à faire la bouffe. Moi aussi, là, tu sais, il y a des fois où je dis, ah, j'ai plus faim. Tout d'un
coup, ouais,
mais c'est comme ça, tu sais. Qu'est-ce qu'on peut y faire?
Ouais. Hey, c'est une nouvelle qui date un peu de la semaine dernière. Écoute, la semaine dernière, ça a été une semaine complètement folle dans les médias, ouais. Là, avec le rapport de la Caisse de dépôt et de placement qui a été rendu public, avec le premier ministre, la vice-première ministre, puis Jonathan Julien, qui font l'annonce du troisième lien à Québec. Ça a été maintes fois mentionné dans les médias, que ce soit les médias de Québec ou encore les médias de Montréal. Curieusement, il y a énormément de gens de Montréal qui se prononcent sur nos affaires à Québec. Je trouve ça hallucinant. là. Je pense que vous devez trouver à peu près la même affaire pour vous autres qui restez peut-être un peu plus loin que les villes comme Québec, Montréal, Trois-Rivières puis Drummondville. Et vous êtes un peu tanné que les gens se prononcent sur des choses qui ne les touchent pas. Ben, je peux vous dire qu'à Québec, nous autres, de voir que des grands chroniqueurs montréalais disaient « Ouais, ben là, le troisième lien, ils n'ont pas besoin de ça à Québec », alors que l'argument que je dis, moi, depuis des années, même dans notre ancienne vie radio, quand tu venais nous voir, c'est que pour ce qui est du pont Pierre-Laporte, c'est le seul pont à l'est à l'est de Montréal, mettons, on va dire ça comme ça, qui permet un passage de la rive nord à la rive sud pour ce qui est des camionneurs. Si ce pont-là arrête pour des raisons quelconques, que ce soit un gros accident pendant quelques heures ou encore un très très gros accident pendant quelques jours, si ce n'est que quelques semaines, le détour pour les camions et le premier détour serait à Trois-Rivières, puis l'autre serait à Montréal, ce qui serait totalement débile, là.
Premièrement, là, pour les gens qui sont des gérants d'estrade et puis qui milite en défaveur d'un troisième lien. Pour l'industrie du camionnage, ce lien-là devient primordial. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun lien autoroutier entre la rive sud et la rive nord, si ce n'est que le pont Pierre-Laporte. Là, on milite beaucoup pour que le pont de Québec, on abaisse un petit peu le bitume puis qu'on réussit à faire passer des camions là.
Ouais, je vais te confirmer quelque chose, Ben, là, avant de continuer, parce qu'effectivement, ça a été dit par un député fédéral de Québec, comme quoi il fallait abaisser le tablier du pont, mais il y a des ingénieurs qui se sont penchés là-dessus il y a quelques années et qui ont dit que ce serait impossible de le faire.
Ça marchera pas. Puis même si on avait l'intention de le faire, avec toutes les rumeurs et tout ce qui se passe autour du pont de Québec, y a-t-il quelqu'un qui va aller se risquer là? Mais j'avais quelqu'un, un chroniqueur, qui m'a demandé, il dit, pourquoi qu'on peut pas passer au pont de Québec? Ben, je dis, il y a l'effet de pesanteur, mais il y a l'effet d'auteur aussi, mais il dit, il passe des trains à journée longue là-dessus. Oui, peut-être que ce boulot est renforcé, mais de l'autre côté, au niveau du tablier routier, il est peut-être moins fort, puis il est peut-être pas conçu pour avoir la vibration puis les camions. Mais ceci étant dit, le problème des chroniqueurs, puis que ce soit n'importe où au Québec, quand on ne veut pas de troisième lien, je veux partir de la raffinerie de Saint-Romuald. On va en avoir encore jusqu'en 2035, là, du pétrole, là, puis probablement plus, parce qu'on ne sera jamais capable d'atteindre l'objectif fixé par nos gouvernements. Bon, si on avait un pont qui traverserait là, qui irait à l'île d'Orléans, qui se rendrait de l'autre bord, bien, on pourrait avoir moins peut-être d'environnementalistes sur notre dos qui diraient « Oui, mais ça pollue des camions. » Je comprends. Faites-nous un lien. On va sauver tout le millage qui part de la raffinerie, qui va jusqu'au pont Pierre-Laporte. Du pont Pierre-Laporte, on descend, on va aller jusqu'à, disons, aux Galeries de la Capitale, puis on va s'en aller vers l'Est à partir de là. C'est du millage pour rien. Il y a la Grand Côte d'Henri IV aussi, là, qui est très, très, très difficile à monter quand on est chargé. Mais si on avait quelque chose, un lien, pas un tunnel. Je le sais qu'il y a bien des gens qui veulent un tunnel, mais on ne veut pas de tunnel. Pourquoi? Parce que je ne suis pas capable de charrier du pétrole. Je ne suis pas capable de charrier de la matière dangereuse. Puis même si vous dites, oui, mais on n'a pas besoin de ça dans la vie, bien, je m'excuse, là, mais sans pétrole, il y a bien des affaires qui ne marcheront pas. Puis vos autobus vont encore fonctionner avec du diesel pendant quelques années, même si on privilégie encore l'électricité. Faites-nous un lien, là, c'est Éric Duhaime qui a parlé de ça, là, un lien qui partirait de la rive sud, qui traverse l'île d'Orléans, un deux voies. Peut-être qu'on peut commencer par deux voies. On verra l'achalandage, puis éventuellement, on pourrait calquer ce qui est du George Washington Bridge, mettons, dans la ville de New York, où on l'a mis deux étages, parce qu'à un moment donné, il y a trop de trafic. Bien, mettons ça deux étages, pourquoi pas? Faisons quelque chose qui pourrait être fait dans le futur sur deux étages. Et bon, direction nord, on sera sur un étage. Direction sud, on sera sur l'autre étage, tout simplement demain. Mais je trouve ça aberrant, moi, Yannick, que, disons, certaines stations ou certains médias montréalais ou certains chroniqueurs montréalais sont en défaveur du troisième lien. Si on comptait par habitant sur l'île de Montréal, Laval, le nombre de ponts qui existent là, je pense que de n'avoir 10 dans la région de Québec, on arriverait probablement égal. Mais un, ça suffirait, puis je pense qu'on satisferait l'industrie du camionnage, on satisferait aussi l'ensemble des usagers qui partiraient un petit peu de l'Est, de Lévis, disons, et qui s'en irait vers le centre-ville de Québec ou tout simplement qui voudrait s'en aller vers Trois-Rivières ou vers Montréal, bien, il y aurait un lien qui pourrait les faire tout de suite traverser, sauver du temps, puis s'en aller direction est, tout de suite, direction ouest, pardon, tout de suite après. Puis je pense que tout le monde serait content. Mais arrêtez de militer contre quelque chose que vous ne connaissez pas ou que c'est pas parce que tu n'en as pas besoin à Montréal qu'à Québec, il n'en a pas besoin. Puis moi, tu sais, Québec, c'est une région que j'ai empruntée très régulièrement quand j'étais camionneur. Puis de manquer un lien, le déglaçage l'hiver, là, ça paraît pas, là, mais il faut arrêter, il faut attendre. Quand il y a un travaux quelconque ou c'est bloqué de jamais, bien, tout est une question de temps dans le monde du camionnage. Bien, si je suis capable d'aller dévier par un autre pont, je vais le faire. Puis je vais sauver de l'argent à mes clients que j'ai dans la remorque. Puis je vais sauver aussi du temps aux gens qui disent hey, « j'ai besoin de ce morceau-là pour avant-hier ». Bien, si je chauffe quelques heures, c'est quelques heures pour ces gens-là. Mais ça, peu de gens savent ça. Puis peu de gens pensent, en tout cas, ils se disent toute la même affaire, mais on a de moins en moins de besoin de camionnage, tout ça. Mais je m'excuse, mais vous allez voir que le camionnage n'est pas prêt d'arrêter parce que tout le monde consomme. La vente en ligne explose d'année en année en termes de hausse d'achat en ligne. Puis dans quelques années, vous allez voir, là, je comprends qu'on va mettre des véhicules, plus de petits véhicules électriques à se promener dans les villes, mais quand je commande une pleine remorque de petits pois verts qui tombe en spécial dans une semaine, c'est bien de valeur, mais ça prend un camion au diesel pour aller livrer ça. Il n'y a pas un camion électrique qui va avoir l'autonomie nécessaire pour partir d'un entrepôt de la Rive-Sud puis aller livrer ça au centre-ville de Québec, d'une épicerie. Ça, on s'entend tout là-dessus.
Mais, tu sais, ça se demandait, parce que nous, on en parlait à la radio de Québec depuis des années, là. Moi, c'est depuis des années, je reprenais cet argument-là que juste un pont pour les camions, ça a comme pas de bon sens. Puis pour la sécurité des gens de Québec, il nous reste juste, que ce soit le pont de Québec ou encore que ce soit le pont Pierre-Laporte pour circuler, Québec et Lévis vont être paralysés pendant des heures et des heures avant qu'on réussisse à faire passer tout le monde, ce qui faisait en sorte que ça avait pas de bon sens. Mais juste d'abaisser, tu sais, parce que tu sais qu'un député fédéral, c'est Jean-Yves Duclos qui a mentionné ça, dit « Ah, ben nous, ce qu'on pense, c'est qu'on pourrait abaisser le tablier du pont », alors que les études ont été maintes fois faites et on a prouvé avec ces études-là, puis c'est pas des gens comme moi, là, c'est des ingénieurs qui ont fait ces études-là, que c'était impossible d'abaisser le tablier du pont pour faire passer des camions. Puis là, en plus, les camions n'ont pas le même empattement que les véhicules. Donc, que les petits véhicules. Donc, imagine-toi, tu as trois voies sur le pont. Quand les trois voies sont ouvertes, on trouve que les miroirs sont très proches. Fait que tu n'auras pas le choix, si tu permets aux camions de passer sur le pont de Québec, tu n'auras pas le choix de fermer au moins, au minimum, une voie parce que les camions vont empiéter pratiquement sur l'autre voie. Ça va passer trop proche. Puis, la capacité de charge aussi. Tu vas devoir, advenant le cas où ils réussissent l'impossible, là, c'est qu'ils abaissent le tablier du pont. Puis ils disent, bon, ben c'est correct, les camions peuvent passer. Ben il faut qu'ils mettent le maximum de camions au maximum de charge. Il faut qu'ils ajoutent le train aussi, parce que le train passe là-dessus. Puis là, ben tu calcules tout ça. Puis les ingénieurs disent, t'as un peu, là, ça va être beaucoup trop lourd, là.
Oui,
ça peut pas tenir, mais t'as un député qui colporte cette rumeur-là comme quoi ce serait possible parce que lui, on lui a dit qu'il devait être contre un troisième lien ou un deuxième lien viable à long terme. Je trouve ça hallucinant. Puis ils sont tous passés devant moi. J'en ai parlé sur les zones de Truck Stop Québec. J'en ai parlé aussi sur les zones de Boulevard 102.1. Ils sont tous passés devant moi. Tous les acteurs là, qui sont en politique qui se prononcent à chaque jour contre le troisième lien. Je leur avais tout demandé, mais c'est quoi le plan B? Advenant le cas d'une fermeture du pont Pierre-Laporte, il n'y a pas un qui savait que c'était le pont La Violette. Puis ça, c'était gênant. Ces gens-là se prononcent à chaque jour.
Tu sais, Yann, je le sais, il n'y a pas ben de sympathie du côté des mainstreams concernant l'industrie du camionnage. Il y a Marc Cadieux, qui est le président directeur général de l'ACQ, qui, lui, quand il y a eu l'affirmation du ministre Duclos, qui a dit, ça fait simpliste pas mal, là, parce qu'il y a déjà eu, dans le passé, comme tu disais, des ingénieurs qui se sont penchés sur la question. Puis on oublie tous et toutes que, bon, mettons qu'on réussit, comme tu dis, l'impossible. À la sortie du pont, rendu à Québec, bien, les voies sont pas faites pour être empruntées par des camions. Premièrement, là, c'est en construction, là, fait qu'il y a plein de Jersey, puis il y a plein de zones où un camion avec un auto en sens contraire, ça pourrait se percuter. Mais une fois que tout ça serait fait, imagines-tu la la congestion qu'il pourrait y avoir. Puis sur la rive sud aussi, en allant vers les magasins à grande surface, on ferait aussi, là aussi, de la congestion. Fait qu'il n'y a pas d'issue possible autre que d'avoir un lien où il y a une fluidité. Puis, on le dit, on va le répéter, le pont de Québec, tant qu'à moi, n'est pas fait pour l'industrie du camionnage parce que c'est pas une autoroute, c'est pas quelque chose à, où on peut rouler sur une vitesse ou une fluidité qui a de l'allure. Bien, faites-nous donc quelque chose qui est plus à l'est, qui empruntera l'île d'Orléans, puis qui servira en même temps les automobilistes. On peut même faire une piste pour les cyclistes, puis que tout le monde soit heureux dans tout ça, puis qu'on ait une option différente. J'arrive, disons, de Rivière-du-Loup, et je m'en irai au Mont-Saint-Anne faire une livraison. Bien là, actuellement, il faut que je fasse le grand détour. Puis, j'ai pas le choix. C'est la seule option que j'ai. On me ferme, moi, le pont pour X raisons, puis qu'il y a un feu, il y a eu une collision violente avec plusieurs véhicules. Je suis obligé d'aller revirer à Trois-Rivières. Là. C'est 100 quelques kilomètres aller, 100 quelques kilomètres revenir. Là, c'est du temps perdu. Moi, si je dis à mon client, c'est bien de valeur, mais c'est parce que ça va te coûter 200 quelques kilomètres de plus sur ta facture, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ah, mais ça, c'est tes pertes à toi, range-toi avec tes affaires. Mais c'est toujours ça, notre industrie du camionnage. Fait que, est-ce que j'attends 2, 3, 4 heures dans le trafic, je bouge pas, puis je vais réussir à traverser le pont? C'est plate de dire ça, mais on n'a pas l'étoffe des politiciens actuellement sur le marché qui ont un once de désir d'aider la population. C'est toujours de réduire. L'industrie du camionnage en a besoin d'axes routiers. Puis les automobilistes aussi, puis c'est bien de valeur. Si vous voulez réduire le nombre d'automobilistes sur la route, bien, c'est en les écœurant comme vous faites là, vous n'allez pas réduire ça. Vous allez simplement les écœurer, puis même moi le premier, c'est pas demain la veille que je vais emprunter du transport en commun puis encourager tous les axes routiers puis dire « Yes, tu sais, c'est le fun, on se fait pas aider par nos politiciens, fait que faisons les détours en conséquence de... » Non. À un moment donné, pensez à nous autres, pensez à l'industrie du camionnage, mais pensez aussi aux gens qui veulent circuler. Les vacances s'en viennent cet été. Là. C'est-tu le fun d'être pogné d'un bouchon avec toute la famille? Non. Bien, si on aurait des axes routiers comme aux États-Unis, comme ailleurs un peu à travers le Canada, bien, on aurait probablement plus de fun. Puis ça serait peut-être plus le fun aussi de voyager au Québec. Là, bien, surprenez-vous pas que les gens fuient vers les États-Unis cet été, là.
Non, effectivement. Je ne sais pas si tu as vu ça passer. C'est paru ce matin, aux alentours de 10 heures. C'est l'agence QMI qui a mis ça en ligne. C'est un groupe de chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui s'est penché sur les revenus qui étaient liés à la taxe sur le carburant. Et eux, ben, ils se sont dit, quand tous les véhicules seront électriques, comment on va faire? T'sais, le carburant ne se vendra pas autant. Il va peut-être se vendre encore pour certaines circonstances, mais les gens qui vont se promener sur les routes, ils ne paieront pas nécessairement leur dû pour utiliser ces dites routes-là. Donc, on parlait de la stagnation des revenus qui étaient liés à la taxe sur le carburant qui risque d'arriver. Et ils ont, dans un cahier de recherche qui a été publié un peu plus tôt ce mois-ci, ils ont dit, ben, ce serait une excellente occasion d'instaurer une taxe kilométrique. Actuellement, pour ce qui est des automobiles. Nous, on sait là, qu'on s'en va vers là. T'sais, à un moment donné, je pense que c'est 2030, 2035, c'est plus 2035 de ce que je comprends. Là. Il n'y a plus un véhicule automobile qui va être vendu qui n'est pas électrique. Donc, ce serait l'objectif du gouvernement, ce qui fait en sorte que tous les véhicules qui seraient vendus sur le territoire du Québec, ce serait électrique. L'industrie du camionnage, vous êtes rendu où à peu près dans cette histoire-là sur l'électrique? Y a-tu énormément de véhicules électriques? Puis la longue distance, les véhicules électriques, on n'est pas encore là.
Bien, en fait, dans notre industrie, oui, il y a quand même des gens qui véhiculent l'idée d'emmener des camions électriques, mais l'autonomie de ceux-ci n'est pas encore, disons, très fiable. On peut faire du local. Mais si tu fais plusieurs livraisons ou tu es dans le centre-ville, disons, de Montréal, tu climatises ton véhicule aujourd'hui, c'est bien de valeur, là, mais l'autonomie baisse assez vite. Pareil comme quand on le chauffe l'hiver. La majorité des gens parlent de carburant alternatif. Donc, on vise pour 2017 d'emmener beaucoup de ce qu'on appelle du gaz naturel qui serait liquéfié et qui, écoute, est très, très, très peu polluant. On a aussi son petit frère qui s'appelle le gaz naturel compressé. Bon, c'est deux options différentes. C'est le même type d'énergie, dans le fond. Mais le gaz naturel liquéfié, ce qui arrive, c'est que les moteurs de 2017, la nouvelle génération de moteurs, qui, pas 2017, 2027, pardon, qui pousse actuellement, s'en vient avec des options comme tu vas pouvoir avoir la même base de moteur, excepté que la propulsion sera soit diesel, soit gaz naturel liquéfié, soit gaz naturel compressé. Puis on parle même d'hydrogène, sauf que l'hydrogène actuellement, je pense qu'il y a une ou deux stations là, dans la ville de Québec qui produisent de l'hydrogène.
Il y en a une.
Il y en a, c'est très, en fait, énergivore pour produire de l'hydrogène, puis on n'arrive pas à trouver un coût qui ressemblerait peut-être à être compétitif avec du diesel, disons. Fait que l'hydrogène n'est peut-être pas encore une des solutions, quoique en Mauricie, on travaille bien fort dans des parcs pour produire d'hydrogène. On verra ce que ça donnera. Mais moi, je pense que le gaz naturel liquéfié sera probablement une alternative. Puis, il ne faut pas se leurrer, dans notre industrie, on voyage beaucoup aux États-Unis. Donc, si jamais je visais l'électrification des parcs de camions, mon problème, c'est où est-ce que je me recharge? Puis c'est quoi mon autonomie? Si je décide d'aller en Floride aujourd'hui, je pars de Québec. Bon, ben mettons, à 20 heures à soir, je pars de Québec. Bien, probablement qu'à minuit, 1 heure, il faudra que je recharge. Rendu à 5-6 heures, il faudra que je recharge. Fait que le temps que je recharge pour un camionneur, bien, c'est du temps perdu, du temps qui n'est pas très payant, pas plus pour l'entreprise. Fait que on n'est pas... Oui, on vise, à un moment donné, à faire notre part, mais depuis que je suis dans l'industrie du camionnage, moi, j'ai vu des percées incroyables. Je me rappelle que dans les années 2000, juste pour à titre d'exemple, Yannick, bien, on faisait peut-être du 6, 7, 8 000 au gallon, ce qui était énergivore pour un camion. On a amélioré tout ce qui est l'aspect extérieur des camions. On n'est plus aérodynamique. On a mis des systèmes anti-pollution. On a mis des moteurs plus performants. Puis, c'est pas rare à cette heure de voir du 10, 11, puis peut-être même dans certains cas, 12 000 au galon pour un camion, ce qui fait qu'on a réussi quand même. Puis, il y en a qui font mieux que ça, là. Mais dans les moyennes générales, ce qui fait que c'est encore... On est encore une industrie qui, oui, pollue, mais si vous voulez qu'on arrête de polluer, il faudra arrêter de consommer tout simplement parce que nous autres, on est le fruit de la consommation. Si vous ne consommez plus, bien, on ne circule plus dans aucune rue. Si je n'ai pas rien dans remorque, moi, le camion, il n'avance pas. Je n'ai pas besoin qu'il avance. Fait que je ne fais pas d'argent avec. Je fais de l'argent juste quand il roule. Fait que c'est un peu ça. Mais quand les gens vont peut-être nous dicter de devenir plus électriques, en tout cas, notre part est faite. Depuis que je suis dans l'industrie du camionnage, moi, je peux te le dire, notre part, on l'a déjà fait. Je te dis pas qu'on pourrait aller prendre une bonne respiration à partir de l'exhaust du camion puis pas être étourdi un peu, là. C'est une affaire, c'est qu'on boucane de moins en moins. Puis, oui, on fait de la pollution, c'est sûr. C'est un moteur à combustion, mais beaucoup moins que quand j'ai commencé dans les années 2000. Puis, plus qu'on va avancer dans le temps, plus les fabricants vont produire des camions qui sont de plus en plus efficaces. Mais il faut nous donner le temps aussi. On ne peut pas revirer une technologie sur un dissous puis penser que dès demain matin, on est tout électrique, ça va fonctionner. L'acquisition d'un camion électrique actuellement, c'est un peu hors de budget. Il faudrait penser à des subventions, mais notre industrie, as-tu besoin toujours de subventions pour avancer? Bien, peut-être qu'on va s'enligner vers le gaz naturel liquéfié. Moi, je pense que c'est probablement d'ici 2027 l'avenir dans notre industrie. La cible de 2035, je vous le dis tout de suite, dans mon propre opinion à moi, je ne pense pas qu'on va l'atteindre dans notre industrie. Pourquoi? Parce qu'on ne développera jamais assez d'électricité. Puis pour avoir jasé avec des gens qui gravitent autour des fabricants de véhicules lourds, on me l'a dit, si demain matin tous les camions exigeaient d'avoir une prise électrique et consommer du courant, je vous le dis, on n'a pas assez de courant au Québec pour fournir ne serait-ce que la moitié du parc de camions. Fait que, surprenez-vous pas que 2035, on va rouler encore, possiblement au diesel, mais peut-être plus au gaz naturel liquéfié qui, envoie moins de pollution dans l'atmosphère.
Puis, tu sais, c'est ça, c'est sans compter que vous autres, vous devez dealer avec la lutte à l'automobile, là, dans certains secteurs. Prenons Montréal, où on essaie le plus possible de mettre des détours un peu partout, des one-way un peu partout. Des fois, tu te perds là-dedans, dans tout ça, quand tu es en véhicule, puis tu te dis, garde, moi, là, finalement, je j'irai plus à Montréal. J'ose pas imaginer ce que les camionneurs puis les camionneuses qui se pointent à Montréal en plein jour ou dans les heures de trafic, ce qu'eux doivent vivre dans le trafic, ça doit être hallucinant. Y a-tu des camionneurs qui se disent, là, moi, patron, Montréal, ça me tente pas pantoute. Ça devrait être une surprime, là, d'aller virailler à Montréal.
Disons qu'ils sont pas aussi tendres et doux que tu le dis, là, mais c'est plutôt avec quelques bips, là, vous comprendrez. Mais c'est Montréal, livraison à Montréal, oublie ça, avec un paquet de sacs. Je vais pas là parce que je vais être chez nous à soir et je veux pas passer le tunnel, là. Tu sais, c'est des heures interminables, à moins qu'on réussisse à sortir dans des heures où il y a moins de trafic. Mais Montréal est devenue, dans notre industrie, une ville où personne veut aller. Puis ceux qui y vont, ben, en tout cas, chapeau, parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'heures, puis beaucoup, comme tu dis, des no-trucks, là, le panneau avec un camion interdit, ben, on en vit, puis on en a tant qu'on en veut. Puis Montréal est spécial là-dessus. Il y a des parcs industriels, là, qui sont proches des autoroutes, mais tu arrives de Toronto, le pont de l'île aux Tourtes est en construction, le tunnel est en construction. Est-ce que tu vas tenter de passer le pont Champlain pour peut-être aller, disons, vers Toronto, ben là, tu te rallonges. Fait que tu dis, bon, ben je m'en vais inévitablement dans le maudit trafic. Puis ça, c'est plate pour nous autres. Puis il y avait, un moment donné, à l'ACQ, que je parlais tantôt, l'Association du camionnage, il y avait des membres qui avaient demandé à dire, pourquoi qu'on ne charge pas 100 piastres de plus de livraison quand on va sur l'île de Montréal? Puis là, ben, tu comprends qu'il y a des clients qui s'offusquent à ça parce qu'ils se disent, ouais, mais moi, j'ai pas choisi que ça soit fermé partout.
Oui, mais en même temps, en même temps, t'enverrais un signal comme quoi la ville de Montréal est folle.
Ben, on le sait.
Non, mais je sais, mais quand les camionneurs et les camionneuses là, vont s'associer pour dire, ben nous, Montréal, maintenant, si vous voulez qu'on puisse aller livrer là, c'est 100 piastres de plus, 200 piastres de plus. Comme tu dis, les clients, ils vont rechigner, mais ils n'auront pas le choix, ils vont avoir besoin de leurs marchandises, mais ils vont passer le message à la ville en disant, hey, les camionneurs veulent rentrer ici, puis c'est un enfer pour eux. Mais
Ouais.
ça, pour ça, il faudrait que l'industrie du camionnage se tienne, parce que je sais que plusieurs
Ouais.
fois, vous essayez, puis il y en a tout le temps qui disent, ouais, mais moi, je vais y aller pareil, j'ai besoin de gagner ma vie, il y a quelque chose de comprenable là-dedans. Mais le jour où
Absolument.
vous envoyez un message aux gens qui vous demandent de passer par Montréal, t'sais, dites, regarde, la ville de Montréal est complètement folle, puis c'est 150, sinon on n'embarque pas sur l'île. Ils vont le passer, le message à la mairie, ils vont en sortir de là.
Ben, 2 heures d'un camion là, qui est en attente dans le trafic, c'est minimum ça, 150 de frais et de perte de temps et tout ça. Imagine que tu as 10 livraisons, tu vas dire, bon, ben, c'est 1500 piastres. Peut-être que tu vas donner un sourire à un camionneur qui dirait, OK, le chauffeur, lui, il n'aura pas cette somme-là, mais mettons, si tu es à ton compte puis que tu gagnes 1500 piastres de plus pour des livraisons à Montréal, peut-être que tu vas le faire. Mais notre grave problème actuellement, c'est qu'on en est en compétition avec les gens de l'Ontario. Et les gens de l'Ontario, eux autres, qu'il y ait 1 heure, 2 heures, 3 heures de trafic, eux autres, c'est comme une obligation, ils vont le faire. Il y a des géants de l'alimentation, pour ne pas les nommer, qui ont choisi. Il y avait tous des transporteurs québécois qui payent leurs impôts, leurs dues et tout ça, qui ont choisi de prendre des compagnies de l'Ontario qui sont avec des chauffeurs Inc. qui, bon, c'est un stratagème qui fait en sorte qu'ils payent moins d'impôts. On pourra en discuter pendant des heures de ça, mais techniquement, c'est que on va y aller toujours au moins cher. Puis il y a toujours quelqu'un qui est prêt dans notre industrie à faire un genre de prostitution et d'y aller moins cher pour essayer d'avoir le client, pour obtenir des contrats. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ces compagnies-là, on a vu Pride Logistique là, qui a planté dernièrement en Ontario, qui utilisait le stratagème de Chauffeur Inc., mais n'ayant pas le cœur ou l'énergie de facturer ce que ça vaut vraiment un taux de transport, ben, se sont mis sous la loi de la protection de la faillite. C'est plusieurs camions, camionneurs, tout ça qui se retrouvent, disons, avec plus de salaire. Mais il y a une affaire qui est indéniable. Il faudrait qu'au Québec, on se dise tout, si on va à Montréal. Tu sais, Québec, là, c'est tel que tel. Une fois qu'on a traversé le pont Pierre-Laporte, qui nécessairement n'est pas 24 heures sur 24 comme le tunnel, ou, mettons, le pont de l'Île-aux-Tourtes. Mais à Québec, mettons, il y a pas lieu présentement de dire qu'il y aura une augmentation, mais à Montréal, il y aurait certainement lieu d'arriver avec un taux fixe, de dire, bon, ben, à chaque livraison, si c'est un full load, ça sera 300-400$ de plus, mais si c'est 10 livraisons dans remorque à 150 de la livraison, je suis très favorable à ça. Pourquoi? Parce que bien souvent, les clients nous négocient à côté ces taux. Ben, on pourrait se reprendre quelque part puis dire, bon, ben voici, tu veux nous envoyer à Montréal, pas de problème, mais c'est tant de la livraison de plus. Il n'y a pas une scène à faire en bas de ça. Puis ça sera le coût que ça va te coûter pour que j'y aille traverser l'île de Montréal.
Parce que tu es payé à l'heure, c'est tel que tel. Tu sais, tu es 3 heures dans le trafic, tu es 3 heures payé dans le trafic. Ça peut être plate quand tu veux rentrer à la maison plus tôt, mais au moins tu es payé pas. Mais tu es broker, là, tu travailles à ton compte, tu es pogné 3 heures dans le trafic. Là. C'est 3 heures que tu manges de ton argent.
Oui, effectivement. Puis plus que ça, c'est que le camion, il s'use. Avance, arrête. Tu sais, c'est quand même des freins, c'est quand même de la clutch dans certains cas. Puis l'huile du moteur, tout ça, la température. Fait que ça se paye tout ça. Puis je comprends qu'il y a des gens qui aimeraient ça payer moitié prix de ce que ça vaut du transport, mais éventuellement, vous devrez payer le plein prix. Est-ce que dans les géants de ce monde qui nous livrent là, quotidiennement toutes sortes de colis, est-ce qu'ils coupent dans le prix du colis? J'imagine qu'eux autres, c'est tant du colis que tu ailles 1 km ou 20 km à faire, mais c'est des plus petits véhicules. Puis quand ils viennent nous livrer, ben tu entends les freins scellés, tout ça. Mais c'est parce que le transport a ses côtés malades. Puis quand on est, disons, dans une situation économique comme on vit présentement, ben, le problème, c'est que ou se prostituer un peu pour obtenir des voyages. Je sais qu'il y a des compagnies, des fois, qui, je ne sais pas moi, ont 10 départs aujourd'hui ou à ce soir et qui ont 5 voyages dans le classeur et qui disent « il m'en manque 5 ». Puis pour faire travailler les 5 autres personnes, on va prendre des voyages qui défraient à peu près le minimum de tout ce que ça coûte en espérant que le retour sera meilleur sur le prix. Mais on a bien des voyages actuellement qui ne mérite pas d'être transporté, si je peux m'exprimer ainsi.
L'ex-maire Luc Ferrandez, qui est l'ex-maire du plateau Mont-Royal, qui a scrappé carrément le plateau, là, on va se le dire, avait déjà dit que l'idéal pour lui, c'est qu'à Montréal, il n'y ait plus un camion à pétrole qui rentre sur l'île. Puis je pense que la mairesse aussi de Montréal était entrée dans la danse. Puis je pense que tu m'avais fait le calcul, je me souviens pas si c'est sur les ondes de boulevard ou encore sur les ondes de Truck Stop Québec, mais tu m'avais fait le calcul, c'est un camion remorque qui est repris par 5 petits véhicules qui sont comme des petits camions là, pour essayer de livrer ça partout à Montréal qui fonctionnerait à l'électrique. T'imagines-tu la complexité juste pour être capable de livrer des trucs à Montréal si tu n'acceptes plus de camions à Montréal, de camions pétrole?
Bien, regarde, dans une remorque normale, là, si on n'ajoute pas la barre logistique et on rajoute pas le double de palettes, c'est 22 palettes qui rentrent dans une semi-remorque qui est fermée, OK? 22 palettes, mettons, si on parle des petits camions de livraison de Amazon et compagnie, ils rentrent maximum une palette là-dedans, puis d'après moi, il va être écrasé, là. Mais
fait que ça te prend 22 chauffeurs de plus.
Oui. Puis si on y va en straight body, ouais. Straight body, il peut rentrer peut-être plus de palettes, mais le straight body, c'est quand même un camion. Il a le même moteur, bien souvent, que le camion qu'on conduit avec la semi-remorque en arrière. Fait que là, bien, M. Ferrandez, qui ne veut plus avoir de camion au pétrole dans son secteur, c'est bien de valeur. Mais il m'a déjà interviewé dans son émission du midi, puis à la question qu'il m'a posée, tu sais, il y a trop de camions, puis tu sais, je le voyais venir à 100 000 à l'heure, puis il y a bien des camions, c'est polluant, puis tout ça. La seule raison pour arrêter tout ça, M. Ferrandez, là, arrêter de consommer, puis il n'y aura plus de camions. Notre seul et unique objectif, c'est d'aller livrer ce qu'on a dans remorque.
Ouais.
Fait que si vous ne consommez plus, on n'est plus là. Il y a eu un fret en onde, puis ça s'est terminé là, tu sais, il a quasiment dit, bon, l'entrevue est finie.
Non, mais tu sais, je veux dire, ce gars-là était maire du plateau. Là, maintenant, il est animateur au 98.5. On y a greffé Nathalie Normando parce qu'on s'est rendu compte qu'il était vraiment pas bon. Puis au côté jugement, il l'a pas pantoute. Donc, encore une chance, ils ont mis Nathalie Normando avec lui. Puis ça devrait mieux aller son émission. Mais pour avancer une affaire comme ça, là, tu sais, il y a trop de camions. Puis ça prendrait des plus petits camions pour livrer. Puis ces petits camions-là devraient être électriques. Déjà qu'on a de la misère à se trouver des chauffeurs. Là, tu me dis qu'un camion remorque avec un chauffeur pour réaliser ce que le maire Ferrandez veut faire, ou encore la mairesse de Montréal, parce qu'elle était d'accord avec ces propos-là, ça prendrait à peu près une vingtaine de chauffeurs. Ça n'a pas de bon sens.
C'est pas compliqué, Yann. 22 panels. On embarque une palette par panel. Fait que 22 petits Econoline là, de ce monde, ou 22 minivans de ce monde, c'est ce que ça prend pour vider une remorque et aller la livrer. Combien de temps vont fonctionner ces petits moteurs-là qui sont autant énergivores à un moment donné? Fait qu'il n'y a pas de deal à faire pantoute là-dedans.
Ben non.
Puis je comprends que c'est plus gros, c'est plus lourd, c'est plus lent un camion à remorque, mais c'est bien plus vite. Quand on part du point A, on va livrer au centre-ville, on se recule d'un dock, même si c'est difficile, bien, 22 palettes, ça peut prendre une quinzaine, vingtaine de minutes, c'est déchargé. Puis après ça, on repart puis on s'en retourne. Mais là, tu as 22 petits véhicules. Fait qu'on ajoute en nombre les petits véhicules. Est-ce que c'est plus efficace? Moi, je crois pas. C'est sûr que je peux pas faire de la livraison de colis avec une semi-remorque, mais techniquement, je peux emmener toute la marchandise que vous avez commandée qui partirait, disons, de Toronto et qui va transiter d'un entrepôt à Montréal. Bien, moi, je suis le meilleur transporteur pour ça, là, tu sais, il n'y a pas à négliger ça. Mais le problème, c'est qu'à Montréal, on pense qu'on peut réduire en emmenant plus de petits livreurs. Puis, attache-toi-tu, à un moment donné, on va nous dire que le cycliste va être 100 fois meilleur, puis qu'on va être capable, peut-être même, comme dans certains pays, ça pauvre t'es raide, là, tant qu'à moi, qu'on va lui mettre des petites remorques qui sont un peu légères en arrière, puis il va faire, mettons, 10 livraisons, il va retourner à quelque part, il va remplir sa remorque, il va aller refaire 10 livraisons, un peu comme la mode, je ne sais pas si ça marche encore aujourd'hui, mais dans les tours à Montréal, il y avait des entreprises qui embauchaient des cyclistes, et bon, tu rentrais dans Tours, Ville-Marie, bien, tu avais peut-être 15-20 enveloppes à livrer, fait que tu prenais l'ascenseur, tu jouais de l'ascenseur pendant une couple d'heures, puis après ça, tu retournais. Jusque-là, ça peut être correct, mais tu sais, à un moment donné, il faudrait peut-être retomber deux pieds sur terre puis commencer à penser que, bien, sans camion, tout ce que vous pouvez penser devant vous, là, que ce soit le véhicule que vous conduisez, que ce soit les éléments dans le studio où ce que tu es, Yann, que ce soit ne serait-ce que les micros, bien, officiellement, là, ça a été transporté par un camion. Il n'y a pas à sortir de là. Tout ce que vous pouvez penser, y compris le linge que vous avez sur le dos, a été transporté par un camion. Fait que vous voulez arrêter camion, ben il faut arrêter, il faut se promener tout nu dehors, puis il ne faut pas avoir de char, il ne faut plus vivre, puis il faut écouter tout le monde qui sont très pro-environnement, puis tout le monde va être heureux là.
Mais t'imagines-tu Ferrandez qui arrive avec cette citation-là, ou encore le député Jean-Yves Duclos qui dit hey, « Québec, on va abaisser le tablier, puis on va faire passer les camions. » Ces gens-là n'ont aucune idée de quoi ils parlent, sont même pas capables de se référer à des études quelconques qui existent. Puis là, ben, en disant une chose aussi aberrante, il y a des gens qui vont adhérer à ça en disant « Ben oui, ça va, ça faudrait que ce soit ça, tu sais, 5 petits camions intéressant, électrique, qui pourrait rouler sur l'île, alors qu'il trouve qu'il y a trop de trafic, tu rajoutes 5 véhicules au lieu d'un. Puis en plus, les camionneurs, pardonnez-moi l'expression, mais on n'en chie pas. C'est ainsi, on en cherche partout. Faudrait que tu aies 5 camionneurs aussi de plus pour faire ces livraisons-là. C'est du grand n'importe quoi. Puis ce qui est triste, c'est que ces gens-là nous dirigent. Là. Ces gens-là, ils vont nous faire changer d'opinion pour certaines affaires, alors qu'ils sont complètement dans le tort parce qu'ils ne consultent pas des gens comme toi ou des gens qui font ça à temps plein, là, camionneurs. On aurait tellement avantage à aller aux sources quand on fait un métier comme politicien ou encore quand on fait un métier comme journaliste ou animateur de radio. On sauvera pas personne, nous autres, là. On les divertit. Puis on leur apprend des trucs qui parfois, tu sais. Mais moi, quand je veux savoir quelque chose par rapport à la construction ou par rapport au camionnage, ben je parle à des camionneurs ou un gars comme toi qui s'occupe d'une belle gang de camionneurs avec Truck Stop Québec, là.
Mais il y a une affaire, Yann, t'amènes un bon point. C'est vrai que ces gens-là sont ultra déconnectés, mais dirigent et s'en vont que dans une direction, c'est la leur. Ça veut dire qu'eux autres détiennent la vérité infuse sur qui a le droit de venir dans mon quartier ou qui n'a pas le droit. Un peu comme les gens qui disent « Bon, ben dans ma région, là, moi, je ne veux pas entendre le bruit d'un autodrome, je ne veux pas entendre le bruit de l'aéroport. » Je veux pas entendre le bruit d'un train qui passe à 40 pieds.
Benoît Thérien est ma star d'un soir. Benoît Thérien est le PDG ainsi que le concierge de Truck Stop Québec. Benoît, comment ça va?
J'aime ça quand tu dis concierge.
Ah, j'aime ça,
me fait penser toujours à quand tu vas me quitter tantôt, tu vas me dire Ben, va vider cendrier et tout ça, mais il n'y a personne qui fume ici, mais c'est pas grave.
Non, mais ça ramène les gens terre à terre parce que tu sais, toi, tu es un chef d'entreprise. Je veux dire, il n'y a pas personne de plus. Il n'y a pas personne dans l'entreprise qui travaille plus que toi et qui est aussi comment pourrais-je dire? T'sais, tu peux faire quelque chose d'hyper important pour l'entreprise, mais tu peux aussi faire le ménage puis nettoyer des vitres une fois de temps en temps puis passer le balai parce que des fois, la job est tout simplement pas faite. Puis quand je côtoie des hommes et des femmes d'affaires, ils me disent toute la même affaire. C'est que t'es le dernier rempart avant la catastrophe.
En fait, quand t'es gestionnaire d'une entreprise comme nous autres, c'est que t'éteins les feux. Fait que si des poubelles de plaine quelque part puis que personne ne les a vidées, ben il faut aller vider avant que la femme de ménage revienne. Puis c'est comme ça, mais c'est probablement dans toutes les entreprises où les gestionnaires, à un moment donné, mettent l'épaule à la roue puis c'est comme ça que ça fonctionne. Mais techniquement, c'est ça. Ça permet quand même d'apprécier ce qu'on fait. Puis comme tu disais en début d'émission, ceux qui travaillent sur les toitures. Rendu à cette heure-là, il n'y en a plus, là. Mais t'sais, ceux qui ont travaillé aujourd'hui sur la toiture, ceux qui ont fait de la construction, ceux qui ont travaillé dehors physiquement, ben vous avez notre chapeau parce que vous avez travaillé dur. C'est plus difficile. Il faut boire énormément d'eau, mais ça reste que physiquement, c'est difficile. Puis nous autres, ben même si on est à l'air climatisé, ben il faut quand même faire ce qu'on a à faire, mais ça reste que... Ah, c'est ça. C'est le problème, c'est qu'on vit une canicule. Puis dans quelques jours, ben je voyais que dimanche, il annonce un petit peu de temps frais. Ben, ça va peut-être ramener un petit peu la météo à l'ordre.
Ben, avant de terminer, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui adorent t'entendre, même si c'est des gens qui sont pas camionneurs. D'ailleurs, il y a une dame ici qui s'occupe de l'administration qui aime bien entendre parler de camionnage, même si elle ne connaît absolument rien. D'ailleurs, je pense que je t'avais envoyé la vidéo, là. C'est Maud qui t'apprécie beaucoup. Salut Maud! Pour les gens qui voudraient en savoir plus sur le merveilleux monde du camionnage, bon, il y a la belle gang de Truck Stop Québec, bien entendu. Il y a les écoles de camionnage. Quelqu'un qui se dit « Je suis dans ma voiture présentement puis je veux devenir camionneur, dans combien de temps je réussis à gagner ma vie? Là? En combien de semaines, combien de mois? Puis c'est où je vais faire ce cours-là? »
Bon, dans la région de Québec, c'est très simple. Vous allez retenir une seule adresse, c'est le CFTC, donc Centre de formation en transport de Charlebourg. C'est une école publique qui va vous donner une formation. Moi, je pense que d'ici... Je m'avance un peu, là, mais dans 6-7 mois, d'après moi, vous gagnez votre vie comme camionneur puisque la formation est de 4 mois. Mais là, je ne connais pas si les classes sont remplies ou non. Il faudra appeler sur le site de cftc.qc.ca et trouver... puis il y a même des formations, des fois, qui sont offertes dans des entreprises de camionnage. Dernière Transport sur la Rive-Sud des Ponts va en offrir un au mois d'août. Fait que vous allez faire ce qu'on appelle une alternance travail-études. C'est que vous allez suivre votre formation, vous allez être rémunéré, puis vous allez gagner votre vie comme camionneur assez rapidement. D'après moi, tu sais, un 4 mois, ça veut dire à août, septembre, octobre, novembre, mettons décembre, vous allez passer Noël sur la route si ça vous tente, aller conduire des camions. Puis dans la région de Montréal, c'est le CFTR. Donc, c'est deux écoles au Québec qui sont reconnues pour donner un diplôme. C'est important, les diplômes, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, vous allez le voir, là, il y a des batailles dans notre industrie qui vont certainement faire face dans quelques années à ça, de réduire les permis de conduire qu'on pouvait obtenir dans des boîtes de Cracker Jack. Il y a des formations minimales reconnues dans des écoles privées. Il faudrait faire le tour de ces écoles-là, voir qu'est-ce qu'elles peuvent vous offrir. Mais je vous suggère toujours le 615 heures avec un DEP reconnu. Pourquoi? Parce que quand vous cognez dans une entreprise de transport, ça fait très sérieux. J'ai suivi ma formation, j'en connais, il me manque un petit peu de pratique. Donc, je vais être un bon camionneur pour vous. Les entreprises vont vous accueillir à bras ouverts versus des fois peut-être d'autres types de formations trop, en fait, avec des heures très minimes. Tu sais, un 40-50 heures, je sais que si vous avez travaillé sur une ferme toute votre vie, vous allez être bon. Mais là, il s'agira de vous vendre. Mais le 615 heures, vous sortez de là, puis même Yann, un jour, si tu veux devenir camionneur, tu sors de la formation, tu es top shape, t'en connais assez pour partir avec un camion, tu vas faire un stage avec un camionneur expérimenté, puis après ça, on te donne les clés, va-t'en, va gagner ta vie. puis tu auras un mentor là, que tu pourras appeler de temps en temps, où est-ce que je vais, comment est-ce que je fais ça, puis tu vas avoir bien du plaisir à parcourir tous les États des États-Unis.
OK, puis je sais que ça intéresse personne, mais il faut que je te pose la question quand même. Je suis un petit travailleur, je suis un moyen travailleur, je suis un gros travailleur. Comment je peux gagner dans l'industrie du camionnage?
Le petit va gagner 40 à 60 000 $ par année. Le moyen, 60 à 80 000 $ par année. L'excellent travailleur, celui qui va maximiser un logbook électronique. Ça veut dire que le logbook dit tu peux partir à 10 heures ce soir. À 10h01, il est sur le camion puis il décolle. Vous allez gagner facilement du 100 000 et plus par année. Puis, je sais qu'il y a des entreprises de Montréal qui vous offrent du 130, 140, 150 000 par année pour du travail en team. Là.
Voilà, c'est dit. Ben, c'est toujours un plaisir. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur Truck Stop Québec, on vous trouve à quel endroit?
Facebook, truckstopquebec.com, Spotify, vous voulez entendre Marceau, on est même sur Spotify. Je pense, hey Marceau, juste à cause de toi, 153 ou 154e podcast le plus écouté à travers le Canada.
Bon, on va continuer de dire des niaiseries une fois de temps en temps.
Lâche pas.
Salut Ben.
Bye bye.
Merci beaucoup. Nous, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 102.1 et je vous retrouve demain 11h avec Pascal CV qui revient de Nashville pour ce qui est de l'émission